Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'émission de support numéro 1 dont vous n'auriez jamais imaginé avoir besoin dans votre vie. This is the Customer Service Therapy Podcast avec Carole T. Merci d'être à l'écoute ce soir.
Avant d'aller plus loin avec l'épisode d'aujourd'hui, il est important que je vous rappelle les différents moyens que vous avez d'entrer en contact avec l'émission. Nous sommes sur Facebook avec notre nom officiel, The Customer Service Therapy Podcast, thérapie avec Y. Nous sommes aussi sur Instagram en tant que @cstherapypodcast, thérapie avec Y. Notre site internet est encore en cours de développement et avec la grâce de Dieu, il sera prêt d'ici peu. Si vous souhaitez réécouter les épisodes en français ou écouter des épisodes en anglais, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Amazon, Spotify, iTunes et plein d'autres. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience avec nous, avec moi ici, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un email à customerservicetherapyavecy@gmail.com. Et pour votre information, je suis en train de travailler à la création d'épisodes radiophoniques humoristiques uniquement pour nos abonnés. Alors qu'attends-tu? Suis-nous, abonne-toi et active ta cloche.
Je te prie de m'excuser pour la qualité sonore de cet épisode, ce sont les aléas du podcast et je travaille d'arrache-pied pour améliorer tout ça. Je te remercie pour ta confiance et bonne écoute. Mais c'est super, donc pour la petite intro, Nanou et moi, moi c'est Carole Chomène, nous on travaille dans les services à la clientèle depuis des années. Nanou s'est un peu reconvertie en agent logisticienne depuis quelques années maintenant.
Tout à fait.
Voilà, donc ça fait quoi? Toutes les deux, on a près de 40 ans, 50 ans de carrière dans le service, dans tout ce qui est service administratif, support administratif, service à la clientèle.
Ça fait beaucoup d'années, hein?
Ouais, ça fait beaucoup d'années, hein? Et on se connaît aussi depuis beaucoup d'années, donc ça c'est une de nos conversations de tous les vendredis, quand on peut s'avoir au téléphone, donc on a des conseils.
Nos vendredis, on va passer notre temps à pouvoir sortir ce que l'on pense sans avoir le regard de l'autre, la pensée de l'autre, le stress de se dire mon Dieu, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on va penser de nous, est-ce qu'on risque de perdre notre job? Non, c'est le vendredi où tout est permis.
Exactement. Voilà. Je voulais parler des entreprises qui ont tendance à harceler les employés que... Tu sais, elles ont envie de virer un employé, tu vois. Mais au lieu de virer, de licencier l'employé, elles, parce qu'elles ne veulent pas payer probablement, je ne sais pas, les indemnités, etc. Ben, certains managers s'amusent en fait à jouer à certains jeux. Qui pour moi des fois c'est
la pression sur l'employé.
Voilà, c'est ça.
On va se poser la question s'il est tout simplement capable, productif, ou il est à sa place, et à la fin il se retrouve à se poser la question si ce serait pas mieux qu'il devrait partir.
Exactement. Et tu vois, et ça c'est quelque chose en fait qui m'a tellement interpellée aujourd'hui. Je me suis dit dans tout ça en fait. Où sont les ressources humaines, tu vois? Quel est le rôle des ressources humaines dans une entreprise? Parce que je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui disait en fait que les ressources humaines, c'était un peu le chien de garde des entreprises. Et en gros, en fait, il n'est pas là vraiment pour défendre les intérêts des employés, il est là pour défendre les intérêts des entreprises. Ok, donc... Si tu es d'accord avec, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fabrique?
Les ressources humaines ne sont jamais là. Les ressources humaines ont un rôle assez simple. Faire signer le contrat, s'assurer que le paiement soit effectué, et donner l'information à l'employé de ce qu'il doit faire et de ce qu'on attend de lui.
Mm-hmm.
Et ce qu'il ne doit pas faire. Mm-hmm. Mais en aucun cas, on lui annonce ce qu'il peut attendre des ressources humaines.
Mm-hmm.
80% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Combien de ressources humaines as-tu vu qui a convoqué un employé pour lui dire « Ok, bilan de l'année, on voudrait savoir comment ça se passe avec le manager, comment ça se passe avec le superviseur, comment ça se passe avec les collègues ?» On ne le fait jamais. On va voir les ressources humaines jusqu'au demain. Nous, souvent, on contacte les ressources humaines en tant qu'employé, mais les ressources humaines ne nous contactent pas. Sauf si nous avons toujours tous nos contrats, ou alors on vient notre lettre de démission. En dehors de ça, on n'est pas contacté. Alors qu'on nous parle de ressources humaines. Il n'y a aucune humanité là-dedans.
Oui, oui, effectivement.
On est contacté uniquement pour signer le contrat ou alors pour pouvoir redonner les clés ou le matériel de la société pour pouvoir être licencié. Mais à aucun moment, il ne sert de garde-fou entre l'employé et la société. Jamais. Ça, c'est qu'il protège les intérêts de la société et jamais les intérêts de l'employé. Combien d'employés aujourd'hui possèdent le voilà, moi j'ai été aux ressources humaines, on m'a demandé comment ça se passe avec le management, on m'a demandé comment ça se passe avec mes collègues, on m'a demandé comment ça se passe avec le superviseur. On ne fait aucun bilan.
Oui.
On n'en fait pas.
Oui.
Et pourtant, l'employé, le management, eux, vont faire le rapport aux ressources humaines pour dire que, bah, écoutez, on pense que dans les mois qui viennent, on va tout simplement arrêter le contrat avec l'employé.
Oui.
Souvent, c'est ce qui se passe.
Oui, oui. Oui, et moi, tu sais que j'ai déjà eu des cas où on a voulu, tu vois, que je joue un peu à ce jeu-là, où on a un employé qu'on veut virer depuis longtemps, mais le manager en question n'a jamais pris le devant déjà pour recadrer les choses. Et maintenant, toi, tu arrives, on commence à te dire, oui, mais il faut que tu apportes des preuves, prouver que telle ou telle personne ne fait pas son travail correctement et que par conséquent, il y aurait de raisons à se séparer d'elle. Mais je te jure que je trouve que c'est quelque chose de tellement malsain parce que du coup, les personnes en fait qui sont pointées du doigt comme ça, hein, parce que le manager n'a pas suffisamment de couilles en fait pour dire écoute, c'est bon, voilà, tu n'as pas bien fait ton travail. On te met par exemple en plate sur un plan de développement. Et puis on va voir comment ça se passe à la suite. Si c'est pas bon, on te vire. Mais non, au lieu de faire ça, ils vont jouer en fait un jeu du chat et à la souris, aller commencer à poser des questions aux gens en... Allez, comment tu dis ça? Ils posent...
Oui. Tu sais ce que tu dis? C'est intéressant dans la
mesure
où ils sont formation Six Sigma. Je me dis pourquoi, parce que hier j'ai fini un module où c'est en fait pour pouvoir faire devenir un yellow belt. Et il parle du cycle time, du cycle du temps. Dans le cycle time, ça définit pas mal de choses, voilà, qui peuvent être comme un petit exemple. Les frais cachés, les coûts cachés, hidden cost, tu vois. Et il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, les coûts que l'on ne voit pas mais qui coûtent énormément à la société. Exemple, tout simplement,
exact.
C'est le temps que l'on perd pour pouvoir former et le turnover, qui sont des coûts mais incroyables que les sociétés payent. Alors, ce dont tu parles là, ça fait aussi partie des coûts. Vous avez un employé qui est dans une société qui n'est pas du tout productif. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous auriez préféré avoir quelqu'un d'autre formé et le mettre à sa place. Mais qu'est-ce que vous préférez faire? Vous préférez garder cet employé, continuer à le payer et passer du temps à trouver des excuses pour le virer. Non, je pense que si on arrêtait de jouer à la politique de l'autruche, ça serait nettement mieux de prendre l'employé, de lui faire comprendre que voilà, en fonction de nos attentes, tu ne réponds plus à nos attentes. Ce que l'on voudrait, c'est que tu puisses avoir telle ou telle autre façon de travailler. Si par contre, dans les 6 prochains mois, tu n'arrives pas à satisfaire ton KPI, on sera obligé de se séparer de toi. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la personne qui est en train de travailler, elle a devant elle des chiffres et des statistiques qui lui prouvent que son rendement n'est plus productif pour la société. Mm-hmm. Donc ça lui permettrait à la personne de s'auto-analyser, de faire une recherche. Est-ce que je veux avancer dans cette compagnie? Est-ce que je veux m'arrêter? Ou est-ce que je veux m'améliorer? Mm-hmm. Déjà, ça donne la possibilité à l'employé lui-même de s'auto-analyser et mm-hmm. à l'employeur de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un employé qui sera beaucoup plus productif. Mm-hmm. Mais en passant du temps à chercher le pourquoi, du comment, qui a fait quoi, comment, où il est parti, et patati, patata, mais il y a peut-être 3 ans qui sont passés, on a continué à travailler avec quelqu'un qui n'est pas du tout productif, mm-hmm. qui est en train de faire des erreurs dans la société, qui coûte à la société, mm-hmm. qui il faut réparer, qui prennent du temps aux personnes qui sont en train de les former, et qui énervent mm-hmm. le client, même à la limite de faire perdre un client. Mmh. En fait, on est en train de tourner autour d'une situation où nous, personnellement, on est en train de patauger, donc je suis de dire comme ça, plus dans l'imbécilité, et on n'a pas avancé du tout.
Oui.
Alors que si on avait pris l'employé, on le met devant des chiffres, en disant voilà, il y a eu au mois de janvier, il y a eu ci, au mois de février, il y a eu ci, mmh. on lui fait un rapport sur 6 mois. Pourquoi je prends 6 mois? Parce qu'en général, on dit que quand on fait un onboarding, mm-hmm. ben, on se dit qu'après 6 mois, on mm-hmm. décide le oui ou non si tu restes. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Ben, quand on se rend compte qu'il y a un problème, pourquoi on ne prépare une proposition de 6 mois pour dire à l'employé, ben voilà, ce qu'on attend de toi, c'est ça, et dans 6 mois, on va faire une analyse. On va réévaluer, on va voir ce qu'il en est.
Ouais.
On va voir où tu en es. Est-ce que tu as été amélioré ou est-ce que tu es toujours resté au même endroit?
Mm-hmm.
Voilà. Ça permet aussi quand même d'un côté à l'employé de se dire, bah écoute, peut-être que je devrais me poser des questions, est-ce que faire autrement,
mm-hmm.
ou est-ce que j'ai encore envie de rester dans la boîte dans laquelle je suis. Peut-être que tout simplement la politique de la boîte ne me convient plus, parce que voilà, des gens ont évolué avec le temps. Dans la maison, tu travailles dans une société où on vend du pain, mais toi, dans l'entretien, tu as développé l'amour pour pouvoir vendre des fleurs. Bah, à un moment donné, je pense que tu restes dans la société et tu te sens frustré parce que tu as envie de vendre des fleurs et tu as peut-être envie de faire du pain ou vendre du pain. Tu vois ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Parce que les gens sont en perpétuelle évolution.
Mm-hmm.
Ce que tu aimais il y a 10 ans, c'est pas ce que tu aimes aujourd'hui. Ce que mm-hmm. tu tolérais il y a 10 ans, c'est pas ce que tu tolères aujourd'hui.
Mm-hmm.
En fait, on reste dans un raisonnement rigide. Je ne sais pas dire si c'est parce que c'est parce que voilà, on est dans un pays où la mentalité est rigide,
mm-hmm.
et les réflexions sont rigides. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que voilà, il y a une évolution quelque part, que ce soit dans ce que l'on aime, dans ce que l'on fait. Voilà, donc peut-être que la société ne convient plus, ou la personne a eu des enfants, alors qu'il y a 10 ans, elle n'était pas d'enfant. Elle a des responsabilités sont complètement différentes. Elle était mariée, peut-être qu'elle est divorcée. Elle était mariée, elle était veuve aujourd'hui. Elle était parent, elle a peut-être perdu un enfant. Enfin, je ne sais pas, il se passe toujours quelque chose dans la vie d'une personne qui peut changer sa productivité.
Mm-hmm.
Asseyons-nous, réfléchissons ensemble.
Mm-hmm.
Est-ce qu'elle est toujours dans le bon domaine? Elle est toujours dans le bon secteur?
Mm-hmm.
Est-ce qu'éventuellement, on a commencé à la réorienter peut-être dans un autre département parce que ça serait beaucoup plus adapté. Voilà l'exemple du département où il y a des chiffres du soir et qu'elle avait l'habitude de travailler les chiffres du matin. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte que travailler le matin, c'est plus du tout bon pour elle parce qu'elle a envie de dormir un peu plus. J'en sais rien. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut à un moment donné mettre 4 cartes sur table, dire à l'employé que voilà, ça va plus. Et l'employeur dit ça va plus. On va faire un cahier ensemble et on va faire une feuille de route et on va voir comment ça évolue. Au bout de 6 mois, on fait une évaluation.
Oui, et tu sais... Pardon, excuse-moi, je continue. Oui, si ça va, on te garde, si ça va pas, on te bah, laisse partir.
Moi, tu seras prévenu, tu seras prévenu, c'est pas comme si tu l'as éliminé sans raison, mais tu vois, tu mm-hmm. l'as éliminé parce que tout simplement, c'est pas productif et je pense qu'à la fin, tout le monde est gagnant. C'est quand même une analyse qui est win-win parce que l'employé va peut-être se rendre compte, qu'il n'a plus envie de rester là ou qu'il a peut-être envie d'évoluer ou que peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte que bah, il était en train de tout simplement de faire rien et l'employeur de l'autre côté bah, lui au moins il a l'assurance que soit il va s'améliorer soit tout simplement il va arrêter et avec un peu de chance il peut même démissionner de lui-même. Du coup c'est mieux pour l'employeur parce que bah, il a la possibilité de chercher quelqu'un dans l'entretemps quand il va lui dire que lui va poser sa démission. Bah, il sera content, il va pas devoir payer la dignité de départ,
mm-hmm.
déjà.
Ouais, mais.
Et ça lui laisse le temps de chercher aussi quelqu'un d'autre pour le remplacer.
Mais tu sais, si je peux rebondir sur ça, parce que c'est justement hein, par là qu'on a commencé, le rôle des ressources humaines et les observations que moi j'ai faites sur le terrain, justement, ces employeurs. Quand j'ai dit employeur, je me rends compte que en fait, ce n'est pas tant que ça la société, mais ce sont les managers. Ce sont les managers, les team leaders, en fait, les responsables d'équipe, hein, ceux qui sont censés justement gérer ces employés-là, qui souvent ont ce genre de tactique, ont ce genre de comportement. Et ils le font en fait sous couvert, avec la couverture des ressources humaines la plupart du temps. Parce que bien sûr, c'est eux qui sont les premiers interlocuteurs et qui vont parler aux ressources humaines. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est un manque de formation de certains leaders. Parce que tu as des gens qui ont été catapultés au poste de leadership la plupart du temps, sans avoir aucune expérience en matière de gestion de personnel et en matière de gestion de l'humain ou de gestion des talents. Or, aujourd'hui, beaucoup de bureaux ou bien beaucoup de départements ressources humaines se disent « talent development ». Ma question, c'est le « talent development » là, c'est pour développer quel talent? Les talents qui partent ou bien les talents qui restent? Parce que...
Il y a beaucoup de terminologie dans toutes nos sociétés, hein, mais il y a très peu de pratique.
Non, il y a très peu de pratique, parce que...
C'est tellement pathétique, parce que... Je m'excuse d'entendre dessus, c'est...
Regarde.
C'est fatigant.
Non, c'est vrai.
Management, talent ceci, mais... talent cela, développement de talent.
Tu auras aussi comment ils appellent HRBP, HR Business Partner. Ils en ont plein. Il y a plein de terminologies dans les ressources humaines. Et comme je dis, hein, ils ont leur, il y a son utilité, je suppose, parce que voilà, c'est le département qui va rechercher des nouveaux talents qui vont entrer dans la société. Mais j'ai beaucoup l'impression qu'ils sont dans un rôle de conquest. Donc, ils vont conquérir de nouveaux talents, ils les ramènent dans la société. Mais il n'y a pas vraiment de grosse politique, il n'y a pas de politique bien spécifique justement pour encadrer les talents une fois qu'ils sont dans la société. Et je comprends, parce qu'ils remettent ça, ils remettent la plupart des talents sous la responsabilité de leur team leader. Et c'est leur team leader qui sont censés développer ces talents-là. Mais ma question est, ok, si eux... Le HR n'est pas là pour développer les talents des team leaders. Comment est-ce que on s'attend à ce que on va faire grandir les talents existants? Parce que c'est ça ma question. C'est leur boulot, c'est quoi? C'est bon, enfin, tu me l'as déjà dit, on a déjà parlé de ça. Mais en fait, c'est juste une réflexion que je me suis faite. Je me suis dit non. Si il y a des leaders qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas formés correctement, les équipes sur le terrain aussi ne sont pas suivies correctement. D'où le manquement à ce que tu viens d'expliquer là. Un employé dans la société, il n'a jamais de feedback. Il n'a jamais d'évaluation, ou bien il a une évaluation une fois toutes les années. Il n'a jamais de one-to-one avec son team leader, ou il a son one-to-one une fois avant l'évaluation de la fin de l'année. Et puis, on a des plaintes, différentes plaintes de clients, et on commence à... Ça commence à mousser dans tous les sens. Oh, il fait des erreurs. Oh, elle fait des erreurs. Oh, elle n'est pas courtoise. Oh, elle est machin. Comme tu dis, on risque de perdre un client. On risque de perdre un client, etc., etc. Mais jamais on a fait le suivi, en fait, pour voir l'évolution, le progrès de cette personne. Et du jour au lendemain, on a perdu 3 ans. Bang, on rejette à la face de cet employé-là que « Ouais, mais voilà, tu ne fais pas ci, ça, 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 ça. » Mais attends, le gars ou la meuf, elle tombe des nues, quoi.
Oui, effectivement.
Et là, ça casse. Pardon, excuse-moi. Tu es démotivé, dégoûté, dépité. Et c'est ce genre de situation qui fait en sorte que beaucoup d'employés, démotivés, frustrés, dépités, peuvent faire un burn-out.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je confirme que ce que tu me dis est vraiment vrai.
Ton N plus 1.
C'est, je dirais plutôt c'est un mentor.
Ah, ok. Mais c'est super chez vous. Vous avez une espèce de mentor. Donc, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas ton manager direct, mais qui est plutôt comme un coach. Ok, d'accord.
Tu as un mentor avec qui tu as un one-to-one deux fois par mois.
Oui.
Et tu as ton manager, tu as un one-to-one une fois tous les deux mois.
Oui.
Et tu as un one-to-one avec d'abord ton mentor, ton superviseur et ton manager. Donc, en fait, sur l'année, avec ton manager, tu peux être sûr que tu n'auras qu'une seule fois par an.
Ok, N plus 1, N plus 2. Ok, oui. Ok.
Le N plus 1, ça sera une fois par an. Le N plus 2, ça sera une fois tous les deux mois. Avec ton mentor, c'est deux fois par mois. Et là, vous regardez vraiment les chiffres de comment ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va pas, quels sont les points que tu penses qui doivent être encore améliorés, qu'est-ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu voudrais qu'on t'explique, et voilà. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur.
Oui, exactement.
L'employé a la responsabilité de pouvoir aussi donner son feedback. Moins 90% des cas. Quand tu rentres dans une structure où il y a beaucoup de monitoring, comme ce que je viens de dire, deux fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois par an, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de suivi. Mais le plus gros problème, c'est qu'on ne t'explique pas à quoi sert ce suivi. Or, quand tu as signé ton contrat avec ton HR, on t'a parlé de la culture de la société. Et on t'a fait comprendre que dans la société ici, c'est une société où on est ouvert, on attend si de toi, on est là pour t'accompagner, on voudrait que tu évolues, et patati patata. Ça, c'est le discours Disney qu'on t'annonce, où tu te dis, ça y est, je suis Alice au pays des merveilles. Rentre dedans, tu te rends compte que, en fait, non, tu es tout simplement un dalmatien dans les bras de Cruella. Non, non, c'est la vérité. Et que tu te rends compte que, au moindre repas, on va te dégouiller. Du coup, tu tiens un carreau.
Ouais.
Le jour où tu as ton one-to-one avec ton mentor, ah ben, tu fais la comédie.
Oui.
Le jour où tu as ton one-to-one avec ton superviseur, tu augmentes la dose de la comédie.
Ouais.
Et le jour où tu as ton one-to-one avec le manager, mais là tu es au summum de la comédie. Zalinski à côté ne pourrait pas faire mieux. Non, mais c'est tu te rends compte que tu vas jouer la comédie pendant une année.
Oui.
Pourquoi? Parce que tu veux sécuriser ta place.
Oui.
J'aime bien ce que tu as dit quelque part où tu te dis la personne se retrouve à avoir mal travaillé et au bout de 3 ans, on lui fait un feedback, il fait un burn-out.
Oui.
Mais ce qui se passe, c'est que la première année, toute personne qui commence dans une société veut montrer qu'on a une raison de l'engager. Donc, quand bien même tu as ton one-on-one assez régulièrement, mais qu'on ne te donne pas de feedback par rapport à tes erreurs, et qu'on vient de te le donner 3 ans plus tard, forcément, le burn-out, il est à ta porte. Parce qu'en fait, toi, tu pensais que tout ce que tu faisais, tu le faisais bien. Donc, finalement, on te fait comprendre que, en fait, tout ce que tu faisais, tu ne faisais pas bien. Tu vois?
Oui.
Là, il y a un problème. Mais en même temps, même quand tu as travaillé, tu as fait correctement les choses, et que de l'autre côté aussi, on te donne pas de feedback pour te dire qu'on est vraiment satisfait de ton boulot et patati patata, quelque part, tu es aussi frustré parce que tu ne sais pas du tout si ton rendement est bon. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, il y a un juste milieu qui doit se trouver. Moi, là où moi j'ai un problème, en tant qu'employé, c'est très bien de parler de formation, que les managements soient formés. Mais quelles sont les formations que l'on donne à nos managements? Moi, pour analyse, je suis arrivée à une seule conclusion. Quand on donne une formation à une personne qui va devenir soit superviseur ou soit manager, je pense que le mot-clé, c'est soyez diplomate. J'ai l'impression qu'on leur a tous appris à parler avec de manière déguisée sans frustrer l'autre pour éviter toute représailles. Mais pour tout le reste, vous avez carte blanche. C'est l'impression que j'ai. Quand un manager te parle, il va être hyper diplomate. Je m'explique. J'ai eu l'occasion de travailler dans une société où on a engagé un superviseur qui est incapable de pouvoir tenir une réunion, qui est incapable de pouvoir gérer une équipe, qui est incapable de comprendre le processus, mais on a estimé que c'était bon de l'avoir là pour pouvoir créer de la diversité hommes et femmes. Donc, en fait, cette personne n'a pas été engagée pour soutenir l'équipe. Cette personne a été engagée pour pouvoir redorer l'image du management pour dire que voilà, c'est un management mixte. Mm-hmm. Et en plus de ça, ben voilà, c'est pas c'est une personne étrangère, donc du coup, on montre que nous sommes multiculturels. Mm-hmm. Ok, génial, vous avez redoré l'image de la société, mais cette personne ne sert à rien. Mm-hmm. C'est une personne qu'on est en train de tirer par l'équipe, par le management, pour pouvoir espérer qu'au bout d'une année, il puisse devenir quelqu'un de productif. Mm-hmm. Mais pendant ces années, pendant cette année, il va être payé, il va avoir un salaire de superviseur, mm-hmm. et l'argent perdu pour la société. Mm-hmm. Alors que dans l'équipe même, on aurait pu tout simplement promouvoir quelqu'un et lui donner ce poste-là. Mm-hmm. Mais on n'a pas fait, on a préféré engager quelqu'un d'externe. Mm-hmm. Tout simplement une perte de temps, une perte d'argent pour la société. Mm-hmm. Ça, ce sont des dysfonctionnements qui existent. Mm-hmm. Et quand on demande maintenant aux employés de donner un feedback et que les employés ont le courage de dire que bah, ce gars, c'est un boulet, alors là, le management prend sa formation qu'il a reçue au premier jour de diplomate et il dit oui, il faut lui laisser le temps. Non, mais le temps, nous, on l'a pas. Nous, on doit continuer à travailler et avoir des chiffres.
Oui.
Et que cette personne est en train de vous ralentir.
Oui.
On engage un employé qu'il faut former pour pouvoir faire le même boulot que ses collègues, c'est une chose. Mais qu'on engage quelqu'un qui doit pouvoir gérer une équipe, mais qui n'est pas capable de gérer une équipe, c'est pas la même décision. Enfin, mm-hmm. voilà, c'est sans ce genre de petits dysfonctionnements mm-hmm. qui peuvent exister dans une structure. Que je pense que malheureusement, on n'a pas encore compris quels sont les points forts pour lesquels il faudrait former le management. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, comme tu dis, quand le management n'est pas formé correctement, on ne peut pas s'attendre à ce que son équipe soit formée correctement.
Oui. C'est
pas
possible. Effectivement. Donc, pour le mot de la fin, en fait, c'est pour éviter tout ça, pour éviter la danse. pour éviter les danses bizarres qui sont faites en entreprise
c'est
et tout. Des sorciers. Non mais en
là,
plus.
On paraît qu'on est dans un pays de crieurs. Je te dis, c'est pas possible. À la fin de l'année, on a tué des zombies et on a une équipe qui tourne au ralenti parce que tout le monde est dans le couloir de la mort.
Oui, effectivement. Donc pour le mot de la fin, en fait, pour éviter ce genre de situation, c'est en gros il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et il faut en fait que les ressources humaines aussi prennent son rôle de... En fait, je ne sais même pas s'ils ont un rôle, mais oui, parce qu'ils définissent un peu les politiques des ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, je pense que c'est les ressources humaines qui donnent le là en ce qui concerne la manière d'évaluer les employés, les programmes de reconnaissance... Et les programmes d'évaluation, c'est les ressources
alors,
humaines.
Je te coupe tout de suite.
Non, c'est pas. Je dois faire. Je dois avoir quelqu'un des.
Parce que ce que tu dis n'est pas du tout vrai. Les ressources humaines ne jouent aucun rôle au moment de la sélection de l'employé.
Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle des programmes de reconnaissance et les programmes d'évaluation en entreprise. Tu sais, je crois que c'est avec les ressources humaines que cette politique est définie. Non, mais c'est avec eux que c'est défini, mais effectivement, ils sont inexistants le long du processus. Tout ce qu'ils savent, tout ce que moi, je les ai observés faire jusqu'à présent, c'est donner les directives aux managers. Et c'est les managers qui doivent s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Moi, je le dis parce que j'ai été dans la situation où les ressources humaines nous ont donné des directives. Comment est-ce que les évaluations doivent se faire, quand est-ce que ça doit se faire, et puis tirer votre épingle du jeu. Mais je te jure, pour comprendre comment il fallait faire les choses, c'était un... C'est un casse-tête chinois, parce que quand tu n'as pas été formé à ce genre de choses, je te jure, c'est difficile. Et pire encore, quand tu as un poste de cadre et que tu dois remplir certaines évaluations, ou bien un poste d'employé et que tu dois remplir certaines évaluations, la plupart du temps, tu ne comprends pas 80% de ce qui est écrit dans le formulaire d'évaluation que tu dois remplir. Tu ne sais même pas comment le remplir, tu vois.
Je te l'accorde. Donc, je te l'accorde. Même pour nous, les employés, qui par moment, on nous demande de pouvoir faire un récapitulatif de ce que l'on pense que l'on a accompli pendant l'année précédente et de ce que l'on a espéré accomplir l'année d'après. Quand on regarde tout ce qui t'est demandé, tu te poses la question, en fait, qu'est-ce que je dois mettre et qu'est-ce que je ne dois pas mettre, parce que je ne comprends rien.
Oui.
Et quand tu te tournes vers ton management, il t'explique dans les grandes lignes et tu te rends bien compte que lui, il n'a rien compris. Au final, on fait ce qu'on pense qu'on doit faire. Et on se dit, on verra, on entendra le feedback et après on fera mieux l'année prochaine. Tu vois un petit peu le truc?
Oui.
Mais si je peux me permettre, par rapport au HR, il est formé pour pouvoir faire partie des ressources humaines, ok? C'est sa responsabilité. Et ce que je comprends, il y a un problème dans la transmission d'informations, dans la mesure où la personne qui est censée faire le suivi des employés, exemple, de
business
pouvoir remplir
problem.
Les cases de toutes ces choses qui sont demandées, lui, il n'est pas formé pour. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le HR, un jour, donc les ressources humaines, puisse prendre un employé qui serait tout simplement un employé pilote avec le management et voir comment il fait. Et peut-être ça donnera, comme tu dis, le là pour pouvoir savoir comment faire avec les autres. Maintenant, peut-être qu'en interne, c'est fait. Ça, je ne saurais pas le dire puisque je n'ai pas la responsabilité d'un manager.
Attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que je veux comprendre. Tu dis de prendre un employé pilote.
Tu prends un employé pilote, tu prends un employé qui sera genre un sample, tu vois. Et le HR ferait, lui, l'analyse ou ferait l'évaluation qu'il demande au manager de le faire.
De tester les formulaires d'évaluation avec un employé, ok.
Et avec le manager
à côté, ok, ok.
Parce que lui a eu la formation pour pouvoir faire cette analyse, tu vois. Et ça permettrait au manager, au superviseur ou au mentor de comprendre ce qu'on attend de lui et dans le processus. Ça fait partie des problèmes que l'on a eu dernièrement avec quand je te parlais de la personne qui a été engagée pour pouvoir gérer l'équipe. Cette personne a eu l'occasion d'assister à plusieurs réunions pour comprendre comment on attend ce qu'on attend de lui pendant les réunions. Et puis être capable de pouvoir montrer les KPI des agents, voilà ce qui se passe dans votre KPI, pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous aider, ou qu'est-ce que vous attendez de nous, qu'est-ce que vous pensez devoir faire, voilà, pour pouvoir analyser ça ensemble. Cette personne a eu l'occasion de le faire, pourquoi? Parce que on l'a associé à toutes les réunions. Mais en ce qui concerne les évaluations, quand on les fait avec le manager ou avec le superviseur, mais le HR n'est pas là. La question est de savoir est-ce qu'il a déjà eu l'occasion d'avoir un HR à côté pour voir comment il le fait, ou bien on lui a juste donné une fiche, on lui a dit bah, tu feras point A1, A2, A3, A4, C6, C12, voilà les points que l'on attend de toi. Bah, lui, il doit, comme tu le dis, rentrer chez lui, analyser ça, s'arracher les cheveux et dire bah, comment je présente ça.
Oui,
est-ce qu'on se dit qu'en étant manager, tu dois avoir les compétences adéquates pour le faire, ou bien ce serait quand même bien de pouvoir montrer la voie pour pouvoir le faire de manière correcte. Voilà, je pense que c'est les petits points, hein. C'est les petites choses mais qui pourraient faciliter. Au lieu de prendre une semaine, encore une fois, cycle time, au lieu de prendre une semaine ou un mois pour pouvoir comprendre le processus, bah, si on l'avait fait dès le premier jour et on l'avait accompagné pendant une semaine, bah, au bout d'un mois, il aurait compris.
Oui, mais effectivement.
À moins qu'on soit vraiment dur d'oreille pour ne pas comprendre quoi, ce que je veux dire.
Oui, oui. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, je sais qu'il y a certaines sociétés, effectivement, où HR met le paquet pour faire des sessions. Mais c'est toujours, moi je dis, c'est jamais des trainings ou bien c'est des explications. C'est des sessions informatives qu'ils font la plupart du temps. Et non, jamais dans les détails, hein. C'est jamais dans les détails. C'est on t'explique vite fait le document et puis voilà, c'est fini. Mais effectivement, c'est des choses à mettre qui pourraient aider dans le futur. Donc, mettre les bonnes... C'est ça.
Ce n'est pas que pour les employés. Je crois que le shadowing serait bien pour tout le monde.
Oui, exactement. Oui. Mettre les bonnes personnes au bon endroit. S'assurer en fait de transmettre aussi les informations correctement, hein, et tester.
Exactement.
Tester avant, oui, tester avant.
Très important. Très important. Et reconnaître aussi à temps que la personne en place n'est pas au bon endroit.
Oui, oui. Et ça, tout ce qu'on est en train de dire là, je me rends bien compte que ça participe justement à aider aussi dans la lutte contre les sites web, contre le harcèlement aussi. Hein, contre le harcèlement qui peut conduire justement au burn-out. Parce que, comme j'ai dit, la danse, tu as dit la danse macabre. Oh, on joue au cat and mouse, on joue au chat et à la souris avec les employés et puis on commence à... Non, juste parce qu'on n'est pas, on n'a pas les couilles de dire exactement, d'appeler un chat et un chien, donc ça, c'est ça. Ok, donc si vous aussi, vous voulez participer, vous voulez être intervenant ici, n'hésitez pas, vous me contactez, vous avez toutes les coordonnées. Hein, donc voilà, donc vous passez un bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris part aujourd'hui. Je t'adore, voilà, je t'adore. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt.
Une bonne soirée.
Bye bye. C'était la thérapie du service client avec Carol T, The Customer Service Therapy Podcast with Carol T. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!